Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. On est toujours dans le disciple victorieux au chapitre 4, étudiant la parole de Dieu. Nous avons vu jusqu'à présent, la parole de Dieu est unique, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle, la parole de Dieu dans notre bouche est notre source de succès, se rappelant bien sûr que notre source de succès est à cause de l'œuvre de la croix, sinon on ne serait même pas capable de déclarer la victoire en Jésus, donc on se rappelle de ça. Et la parole de Dieu est notre moyen de vivre l'impossible aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que la parole de Dieu est notre autorité finale en matière de foi. Une des choses qu'on veut comprendre, c'est que, bon, dans le monde chrétien, quand on parle de chrétien ici, on parle juste de la religion chrétienne, et nous ne sommes pas dans une religion chrétienne, nous sommes dans cette relation vivante avec Jésus-Christ. Mais pour les gens qui sont là, qui se disent chrétiens, mais qui ne marchent pas nécessairement avec Dieu, mais ces gens-là ont toutes sortes d'autorités. Il y en a qui disent, bien, moi, je crois la Bible, je vais lire la Bible, cependant, moi, je fais ma vie à ma façon. Je peux me laisser inspirer en lisant la Bible, mais quand même, j'ai mon jugement, et puis on en prend et on en laisse. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, oui, nous croyons la Bible, cependant, l'autorité pour notre Église, c'est le pape, par exemple. Alors, même si le pape contredit la parole de Dieu, nous croyons premièrement le pape. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, nous croyons dans la Bible, mais nous avons des revues, et ces revues-là, ben, c'est ça que nous allons étudier. Oui, on va se référer à la Bible, mais quand même, ils ne le diront pas nécessairement comme ça, là, mais la réalité demeure que si la petite revue dit une chose, bien, ils vont croire, premièrement, la petite revue. Il y a toutes sortes de livres que les gens vont utiliser et qui vont être, pour eux, leur source d'autorité. Mais pour un enfant de Dieu, né de nouveau, qui est vraiment dans cette relation vivante avec Dieu, bien, on va croire que la parole de Dieu est notre autorité finale en matière de foi. Des fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui croyait des choses bizarres. Et là, j'ai dit, OK, bien, j'ai dit, explique-moi, d'après la parole de Dieu, pourquoi tu crois telle ou telle chose. Et puis, la personne me dit, bien, je peux pas l'expliquer dans la parole de Dieu, mais mon expérience personnelle me prouve que ce que je crois est vrai. Et puis, moi, j'ai dit, bien, je suis désolé, mais c'est pas parce que toi, tu as une expérience quelconque, là, moi, je vais cesser de croire le rapport biblique qui dit le contraire de ce que tu dis. Alors, notre autorité finale en matière de foi, c'est la parole de Dieu. C'est super important, parce que si on commence notre vie chrétienne pensant qu'on peut choisir ici et là, et dire, bon, moi, je crois ça, mais pas ce passage-là, bien, on n'est pas vraiment sur le bon chemin, la bonne piste pour avoir cette vie victorieuse et la vie dans la vérité. Donc, la parole de Dieu est notre autorité finale en matière de foi, et on va voir maintenant dans Romains chapitre 4 et le verset 13 à 25, un texte vraiment important. Ici, il est écrit, « Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. » Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse inutile. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Verset 16. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. Verset 7. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père de plusieurs nations, devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui, contre espérance, crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta semence. » Verset 19. « Il n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah, et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. » Verset 23. « Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit, que seul que cela lui a été compté, mais au verset 24, mais aussi pour nous à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. On vient de lire ici l'histoire. Bon, on connaît déjà l'histoire de Abraham et Sarah qui ont reçu la promesse qu'ils étaient pour devenir parents. Bien, on sait certainement Abraham était pour devenir le père d'une multitude et des nations étaient pour sortir de sa vie. Et ce qu'on a compris également, c'est que Abraham était très, très âgé, il avait déjà 100 ans. Et puis son épouse, 90 ans. Là, on se dit, mais mon Dieu, comment est-ce que c'est possible? Bien, quand on croit la parole de Dieu, et si la parole de Dieu est notre autorité finale, même si ça ne fait pas de sens humainement, nous savons que Dieu est grand et puissant et notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Humainement, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible. Si Dieu le dit, il va le faire. Et nous connaissons l'histoire ici que le Seigneur a fait en sorte que Sarah puisse accoucher le fils promis qui était Isaac. Donc, nous voyons ici, et ce que je veux souligner, c'est au verset 17, il est écrit, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Voyez-vous, il était père selon Dieu. Dieu lui avait déjà donné le titre de père de plusieurs nations avant même d'avoir reçu ce fils-là. Et verset 18, « Qui ?» contre espérance, cru avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta semence. Verset 19, et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps, il n'a même pas considéré son propre corps, déjà amorti ou usé, selon d'autres traductions, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Alors voilà, on veut faire comme Abraham, on veut croire Dieu et s'attendre à ce que chaque promesse de Dieu se réalise dans nos vies. La parole de Dieu est notre arme contre l'ennemi. C'est une autre chose super importante pour nous. La parole de Dieu est notre arme contre l'ennemi. Dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 11 à 17, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Donc l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, fait partie de ces armes-là que le Seigneur nous a données pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Et là, nous le voyons vraiment dans la vie du Seigneur Jésus. Il était notre modèle parfait en toutes choses. Alors, quand Jésus a vécu des tentations dans sa vie, quelle était sa réaction? Bien, ici, nous lisons dans Matthieu chapitre 4, commençant au premier verset, il est écrit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Remarquez que les tentations nous viennent du diable. « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Eh bien, moi aussi, je pense que j'aurais faim après 40 jours et 40 nuits de jeûne. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Remarquez ici même, le diable est capable de citer la Bible. « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Au verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Certainement ici, cela là, aurait été un péché. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Qu'est-ce qu'on voit ici dans la vie du Seigneur Jésus? Il disait constamment, « Il est écrit. » Mais comment est-ce qu'il a pu faire pour citer ces choses-là? Bien, nous comprenons que Jésus passait du temps dans la parole de Dieu. Pareillement, si on veut être capable de citer la parole de Dieu, lorsqu'une tentation vient et déclarer « Il est écrit », bien, on doit passer du temps à lire la Bible, découvrir ce que le Seigneur nous dit pour pouvoir aussi absorber ces vérités-là dans nos cœurs et remplir notre cœur de ces choses-là, de ces vérités. Et lorsqu'une tentation vient, bien, la bouche va parler de l'abondance du cœur. Alors, tout d'un coup, on va avoir la foi qui va jaillir de nos cœurs et de nos bouches et on va décréter « Il est écrit ». Et là, on va avoir la victoire sur les choses. Au lieu de se laisser tenter par l'ennemi, au lieu de commencer à méditer sur les tentations, on va commencer immédiatement à décréter la parole de Dieu et on va chasser l'ennemi de nos vies et on va vivre dans la victoire comme le Seigneur Jésus a vécu dans la victoire. Il est écrit. C'est pour ça que c'est super important pour nous de prendre ce temps-là, étudier un peu les choses importantes de base concernant la parole de Dieu, que la parole de Dieu est unique, elle est toute puissante, elle nous procure des miracles. Gloire à Dieu pour tout ça. Et puis, moi, je veux vraiment vous encourager. Prenez le temps à chaque jour de lire votre Bible. Une des choses, vous savez, des fois, les gens ont une certaine difficulté. Ils ont des défis à être fidèles dans la lecture de la parole de Dieu. Mais parfois, là, c'est parce qu'on n'a pas une bonne Bible d'étude ou une bonne version. Qu'est-ce qui est important là, pour vous en tant que nouveau chrétien? Allez vous acheter une bonne Bible d'étude dans une version que vous allez bien comprendre. Une fois, j'étais dans un regroupement, un groupe vie, une cellule, et puis il y avait une jeune fille qui était là, qui disait, bien, priez pour moi, parce que j'aimerais vraiment ça, être fidèle dans la lecture de la parole de Dieu, mais j'y arrive pas parce que, bon, je trouve ça difficile, blablabla. Et tout le monde, ils ont dit, OK, on va prier pour toi. Mais, moi, j'ai posé une question, j'ai dit, écoute, j'ai dit, mais quelle version lis-tu en ce moment? Et puis, elle a répondu tout simplement, bien, je lis la Louis II en ce moment. OK, j'ai dit, bien, peut-être pour toi, la Louis II est trop compliquée, peut-être c'est trop difficile pour toi de saisir, de la comprendre. Et puis finalement, elle est allée s'acheter une Bible en français courant, et elle a finalement commencé à comprendre ce qu'elle lisait, et puis là, elle a grandi dans les voies de Dieu. Pareillement, mais dans le groupe, au lieu de prier pour elle et dire, OK, on va prier que tu puisses être fidèle là-dedans, bien non, c'était simple, c'était, va t'acheter une Bible que tu comprends. Et puis, c'est une autre chose aussi, d'avoir une Bible d'études. En tant que nouveau chrétien, c'est bon, vous pouvez aller vous rendre dans une librairie chrétienne ou aller sur l'Internet, faites des recherches pour une Bible d'études. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on lit une Bible d'études? Si jamais on a une question, il y a des choses qu'on ne comprend pas vraiment, on peut voir au début du livre, il va habituellement avoir des notes ici, une introduction pour nous partager un peu le contexte historique du livre. Par la suite, souvent en bas de page, on va retrouver des notes qui vont expliquer le contexte et nous parler des fois l'origine des mots en hébreu ou en grec et tout ça. Et on arrive à comprendre mieux la parole de Dieu comme ça. Alors, c'est un investissement qui vaut la peine pour vous parce que vous allez grandir dans les voies de Dieu et c'est important de grandir avec la connaissance de la parole de Dieu. Si vous dites, bien, quelle sorte de Bible? Il y a toutes sortes de Bibles qui sont bonnes et certainement la parole de Dieu est toujours bonne, mais dans le sens que je suis en train de dire ici, c'est concernant une Bible d'études. Parlez avec quelqu'un dans une librairie chrétienne selon les choses que vous recherchez et puis ils vont pouvoir vous guider là-dedans. Moi, personnellement, j'ai la Bible Scofield que mes parents m'ont offert lorsque j'avais 12 ans. Je l'ai encore. Il y a des choses que là-dedans, OK, bon, des choses sur le Saint-Esprit que je vois différemment, mais en gros, c'est quand même très bien et puis j'ai été béni tout au long de ma vie chrétienne avec la Bible d'études de Scofield. Alors, d'ici à la prochaine fois, je vais vous encourager. Continuez à lire votre Bible, la parole de Dieu. Continuez à prier à chaque jour. Passez du temps également avec vos frères et vos sœurs. Et n'oubliez pas d'aller à l'église ce dimanche. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis dans ce chemin du disciple victorieux.